Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti ! Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Chopin. Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas ?
Oui, alors je suis Sébastien Chopin, développeur web depuis que j'ai 12 ans et passionné de JavaScript et de web.
Depuis 12 ans ? Depuis 12 ans, tu codes du web, toi ?
Oui. J'ai commencé avec un site de jeu avec mon frère Alexandre. On faisait du PHP, beaucoup de PHP. Puis j'ai découvert Ajax avec jQuery et comment rendre des pages dynamiques. Et depuis, je suis complètement devenu fan de rendre les pages interactives et sans rechargement de pages.
Putain, c'est ouf ton truc. Tu avais quel âge quand... Bordel, c'était en quelle année que tu avais 12 ans, toi?
Ben, je me rappelle que j'étais surtout en 4e, 3e. J'ai découvert le site du zéro. Je suis tombé amoureux et pour l'anecdote, j'ai pleuré à la fin du tutoriel de PHP puisque je me suis dit non, c'est pas déjà la fin, c'est pas possible, il y a plus de choses à découvrir.
Comme une bonne série.
Ouais. Puis après, j'ai découvert les autres langages et fait bon, en fait, il y en a beaucoup.
Tu vois, moi, en fait, ça me met une claque parce qu'en fait, quand j'avais 12 ans, il n'y avait pas de web, moi, tu vois.
Donc... Ah oui, oui. Ouais, c'était encore les ordinateurs PC avec la tour, la disquette. Il y avait le CD pour mettre Internet. Et Internet était compté à la seconde.
C'était dans les années 2000 alors.
Voilà, c'est ça.
Tu dois être quoi, de 88, un truc comme ça ?
92.
Ok, waouh.
Et toi ?
Ouais, 79, donc moi j'ai découvert, tu vois,
la
net pour moi, c'est, j'ai encore la bande-son du modem.
Le fameux...
Ouais, moi je rentrais dans la vie active à peu près à ce moment-là. Mais alors, le sujet, mais je pense que c'est pas complètement décorrélé non plus du sujet qu'on a aujourd'hui, parce que tu es un des fondateurs du framework Next.
Oui, je suis un des fondateurs, je suis le premier qui a créé le repo, qui a donné l'élan au framework, et j'en ai parlé directement à mon frère une fois que j'avais un prototype. Et lui est arrivé avec une autre idée géniale qui était d'avoir la static generation dans Nuxt. Et du coup, au bout de 2 semaines, il a rejoint le projet et on l'a créé à deux, en fait, pour toute la suite. Et là, maintenant, ça fait 4 ans et demi qu'on est dessus.
Et ce que je trouve incroyable et ce que j'aimerais qu'on explore ensemble, si c'est OK pour toi, c'est comment est-ce qu'on en arrive à... Est-ce que tu peux, pour les auditeurs, préciser ce qu'est... Alors, tu prononces Nuxt ou Nuxt, toi ?
Moi, je dis Nuxt en français et Nuxt en anglais. Ça dépend à qui je m'adresse.
D'accord. Alors, Nuxt, est-ce que tu peux, pour les auditeurs, expliquer en quelques mots ce que c'est et quel problème ça vient tacler ?
Waouh. Alors, pour faire simple, Nuxt, ça va donner une nouvelle expérience pour les sites Internet. On est vraiment dans l'expérience single page app, où on va avoir la navigation côté client, on va avoir tout le JavaScript qui va s'occuper de la navigation, de l'interaction sur le site. Sauf qu'on l'a poussé un peu plus loin, plutôt que les single page app, où il y a eu un problème d'un point de vue référencement et même d'un point de vue performance. L'utilisateur se retrouve avec une page blanche le temps que l'app JavaScript se charge. On a poussé le rendu côté serveur. Donc, la première fois qu'on va sur un site Internet, on va avoir le rendu qui va être fait sur le serveur, qui va rendre la page HTML. Ensuite, on va avoir toute l'application JavaScript qui va se charger côté client. Et tout le reste de la navigation de l'utilisateur se fait côté client, telle une app native, j'ai envie de dire. Donc, on donne vraiment une autre user experience pour l'utilisateur. Et on donne tous les avantages pour le SEO et même pour les performances, dans le sens qu'on va être capable d'optimiser le CSS pour la page en question, donc inline le minimum CSS. Donc, on est vraiment sur un nouveau paradigme pour créer des applications web ou même juste des sites internet.
Et si j'ai bien capté, c'est une surcouche de Vue.
Exactement.
Est-ce que j'ai besoin de faire du Vue pour faire du Nuxt ou
c'est préférable. C'est préférable d'avoir des bases dans Vue puisque les pages, comme en PHP, on va créer des pages en PHP, .php, ben dans Nuxt, on va créer des pages en .vue. Donc, c'est quand même sympa d'avoir une base dans Vue pour savoir comment on écrit le template, le script et le CSS, même si ça se ressemble beaucoup à du HTML, avec une syntaxe par-dessus pour pour dynamiser et faire des boucles, faire des ifs côté HTML.
Et du coup, ce que je trouve vraiment super intéressant et que j'ai envie de creuser avec toi, c'est comment est-ce qu'on en arrive à créer un framework qui, je crois, aujourd'hui est utilisé à l'échelle planétaire, non ? Enfin, je veux dire, c'est un truc mondial aujourd'hui. C'est...
Ouais.
Est-ce que tu as quelques chiffres pour nous aider à nous rendre compte de l'usage qui est fait de Nux aujourd'hui ?
Là, on a dépassé les 1 million de téléchargements par mois depuis 6 mois. Je crois qu'on a atteint les 1,5 million de téléchargements mensuels. On est, je crois, sur Wapalizer, on a 35 000 sites qui ont été découverts. Après, il y a beaucoup de sites en interne qui sont bloqués par des pare-feux. Mais je pense qu'on est dans les 50 000 sites au total faits avec Nuxt en production. Et on a aussi des offres d'emploi maintenant qui recherchent des développeurs Nuxt. Donc c'est...
Oui, l'écosystème est en train de naître vraiment, quoi, en fait.
Ouais, je pense qu'il s'est bien stabilisé maintenant, il y a un an et demi, et il est en croissance perpétuelle.
Voilà, on en arrive au cœur de ce que j'avais envie d'explorer avec toi, c'est comment est-ce qu'on en arrive à créer un truc comme ça, en fait ? Déjà, est-ce qu'au moment où tu lances Nuxt, tu te dis, est-ce que tu as l'idée que ça peut ressembler à ça quelques années plus tard ? Tu le fais déjà avec cette intention-là ? Ou pas du tout, en fait ?
J'aurais envie de dire oui, mais pas du tout. Oui, j'avais okay. Tout prévu depuis 5 ans.
Non, mais est-ce que... en mode prince machiavélique, ouais. Qui va conquérir le monde.
Non, pas du tout. Je fais du Node.js depuis 2010, donc ça fait 11 ans maintenant. J'ai travaillé dans une startup qui faisait une API e-commerce headless, comme on dit aujourd'hui, donc sans le front-end. Et on était déjà en train de développer en backbone JS à l'époque le front du e-commerce. Et le problème, c'est qu'on voulait que ce soit client-side rendering, qu'on navigue côté client, donc cette superbe user experience. Sauf qu'on avait le problème du référencement. Parce que Google, à l'époque...
Oui, pour le business, c'était juste indispensable, quoi.
Bah oui, le SEO pour le e-commerce, c'est indispensable. Même quand on va partager un lien, on veut qu'il y ait ces belles social cards. Donc, on avait créé un framework à l'époque qui s'appelait Crawlable, qui était basé sur Puppeteer, même pas Puppeteer, ça n'existait pas. C'était sur PhantomJS. C'était vraiment une usine à gaz. C'était pas performant puisqu'on n'avait pas le virtual DOM. Donc, j'avais déjà cette expérience. J'avais déjà essayé de faire un framework pour faire du rendu côté serveur avec de la navigation côté cliente. Sauf que les technologies d'il y a 8 ans ne permettaient pas de faire ça efficacement. Donc, j'avais un peu laissé tomber.
Ok. Donc, tu te forges déjà une première expérience dans un cas business très concret. Tu es dans une boîte, dans un projet où tu as besoin de ça. Donc, tu fais un truc qui touche des limites, mais qui est potentiellement rempli le truc.
Ouais.
Et ensuite, qu'est-ce qui fait que tu en arrives à Nuxt alors ?
On avait fini ce framework. Finalement, les performances n'étaient pas dingues. On était resté sur du simple Node.js qui rendait les pages. Et à un moment donné, je vois React, je vois Vue qui sort. Moi, j'étais encore sur Backbone. Et là, mon grand frère, Alex, m'a dit, tu devrais checker Vue. D'un point de vue Backbone, je devais faire du React. Donc, j'étais déjà en train d'apprendre React. Je trouvais ça sympa, mais très verbeux. Et ça me semblait un peu compliqué pour faire des choses simples. Après, de toute façon, c'est comme
question d'affinité.
Voilà, exactement. Je peux comprendre parfaitement les gens qui adorent React, sans problème. C'est très puissant. Il m'a parlé de Vue. Je me rappelle, j'étais en Irlande dans une auberge de jeunesse. J'ai regardé la doc un soir. J'ai fini à 5 heures du matin sur mon téléphone à lire absolument toute la doc de Vue. Je trouvais qu'à chaque fois, c'était simple, cohérent et quand même puissant. Plus ce côté templating qui reste assez HTML avec une affinité Angular 1. J'ai trouvé ça vraiment... Ça m'a donné envie d'utiliser.
T'as été séduit, quoi. T'as téléchargé la doc dans ton cerveau dans la nuit.
Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, je vais refaire le site avec Vue. À l'époque, c'était Vue 0.10. Il n'y avait pas de rendu côté serveur. Mais je me suis dit, allez, j'apprends. Et comme je n'avais rien d'autre à faire, je me suis dit, je vais répondre à toutes les questions sur le forum. Et j'étais dans cette optique. Et un jour, alors étant grand fan de Socket.io, j'étais aussi un grand fan de TJ Holloway-Chuck, le créateur de Express, et Guillermo Rauch, le créateur de Socket.io. Donc j'étais très temps réel, j'admirais beaucoup ce qu'il avait fait. Et il y avait aussi un Français qui travaillait sur le framework de React, je vais me détester de ne pas me rappeler de son nom, qui avait écrit un article à l'époque qui disait « Node.js, c'est sympa, mais ce n'est pas aussi simple que PHP ». Lui, il voulait que dans Node, on puisse avoir en gros un serveur FTP où j'allais drag and drop mes fichiers Node et ça pouvait tourner comme en PHP. Je m'étais lancé ce défi. J'avais créé un framework qui s'appelait PJS où j'avais des pages qui s'appelaient .pjs. J'avais refait la syntaxe PHP avec du JavaScript et j'avais mon petit FTP que je pouvais drag and drop. Ça fonctionnait très bien. Mais derrière, plus personne n'utilise de serveur FTP. Enfin, plus personne. Moins de gens utilisent de serveur FTP. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire un truc du genre plus personne de sérieux n'utilise un FTP pour déployer?
C'est toi qui l'as dit.
Ouais, j'assume, c'est mon podcast,
oui,
j'assume.
Je suis d'accord. Maintenant, on n'est plus sur Git, des preview deployment. Et j'avais testé ça comme un défi personnel. Et un jour, en octobre 2016, j'ai vu Guillermo qui a tweeté un article about Next sur Next.js. Et ça ressemblait vachement au framework que j'avais créé à l'époque, Crawlable, mixé avec PJS. Et je me suis dit, ben voilà, là, j'ai mon nouveau défi. Je vais essayer de faire la même chose. Il avait fait pour React, pourvu. Et ça a été mon challenge pendant 2 semaines. J'ai failli abandonner. Je me suis dit, ça ne marcherait pas comme ça. Ma copine, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, qui m'a dit, si, tu vas y arriver. arrête de m'embêter avec ton code. Et c'est sorti une fois la nuit à 4h du matin. Je me suis dit, je crois que j'ai trouvé la solution. J'ai réussi à avoir un prototype. J'ai appelé mon frère tout content. Il m'a dit, OK, on va essayer de le rendre beau, un joli readme. Et c'est sorti sur GitHub 2 semaines après, je crois, Next.js. C'était un challenge à la base.
Excellent. Donc, si je refais le parcours, à un moment donné, il y a une espèce de truc qui se cristallise. Tu as un peu des challenges techniques que tu relèves. Tu vois un truc qui sort dans l'écosystème React et tu te dis... j'ai envie de faire la même pour l'écosystème Vue, en fait.
Ouais. Et je me suis dit, je vais l'utiliser pour refaire ce fameux site e-commerce où ça faisait 5 ans qu'il tournait toujours en Node pour utiliser Nuxt, enfin, utiliser cette solution. Et finalement, il tourne toujours sur Node aujourd'hui parce que Nuxt a tellement décollé dans les semaines qui ont suivi que je n'ai jamais eu le temps de finir ce site e-commerce avec Nuxt.
Comment ça se passe après? Raconte-moi. Comment tu passes de... Je fais un git push sur un GitHub où personne ne te connaît?
Alors, j'étais un peu connu dans la communauté Node et Vue.js.
OK.
Il y avait quelques personnes de la core team de Vue qui me follow sur Twitter ou GitHub à force de répondre au forum, parce que j'aidais beaucoup de gens.
OK, donc ton implication dans la communauté fait que tu es un petit peu connu.
Ouais.
Et donc, quand tu en parles, il y a des gens qui vont regarder, en fait.
C'est ça. Et donc, quand je l'ai sorti, il y a Kazupon, qui est un core team member de Vue et qui a créé le module, le plugin Vue18n. Il est japonais, donc forcément, ça aide aussi pour la traduction d'avoir quelqu'un qui n'est pas anglais. C'est une motivation pour créer un plugin de traduction. Qu'il a découvert, qu'il a tweeté. Et à partir de là, on a eu les premières stars, les premières issues qui sont arrivées. Et ben, tout content, on a commencé à répondre aux issues. Ça nous a donné une motivation énorme pour implémenter de nouvelles features. Et une semaine après, on a eu, j'ai fait un talk à la Node.js, un lightning talk à la Node.js. Je crois que c'était en novembre 2016, donc un mois après.
C'est ouf son truc. En un mois, tu fais des talks sur ton framework qui a commencé à être adopté à l'échelle mondiale. Quoi.
Qui était, oui, en 0.1, je crois. Et à la Node.js, il y avait Evan Yu aussi qui allait parler. Donc, c'était à Paris. La veille du Node.js, il y avait Eduardo, qui est le mainteneur de Vue Router. On se connaissait rapidement sur GitHub, je l'avais aidé, il avait fait une librairie pour Vue Material, qui m'a invité à faire un talk au meet-up Vue.js Paris, qui était la veille de la Node.js. Et j'ai pu donner un talk de Nuxt, premier talk de Nuxt, devant Evan Yu, qui était à la première ligne,
énorme,
en fait. Et qui était en mode, oh, intéressant. Et on lui avait expliqué la static site generation. Et c'était pour lui, là, une des premières fois qu'il voyait vraiment un framework créé à partir de sa librairie. Et c'est à partir de là où ça a commencé. On a enchaîné avec la conférence en Pologne, la première Vue.js conférence. Et après, c'était 10 à 20 conférences par an pendant 4 ans.
C'est ouf ton truc. Comment tu manges pendant ce temps-là? À quel moment tu les ramènes pour... Enfin voilà, ça prend un engagement de fou, j'imagine. Je pense que ça prend toutes tes journées, non? Toutes tes heures, toutes tes journées, toutes tes semaines et voire plus.
Ouais. À ce moment-là, je n'avais pas de pression. J'avais mon entreprise de e-commerce qui me rapportait un salaire et je pouvais me focaliser sur le code et cette expérimentation, cette recherche et développement avec Nuxt. Et à un moment donné, j'ai dû bouger à Paris. C'était à peu près après la première année de Nuxt. J'ai bougé à Paris. J'ai dû trouver un taf. Et grâce à cette expérience de Nuxt où j'étais un peu connu dans le web, j'ai pu trouver un CDI sur Paris dans une agence. Et ben, je faisais du Angular 2. Je faisais du Angular 2.
Non,
Si.
c'est fou. Donc attends. Donc au début, tu arrives à vivre un peu sur les économies, sur l'inertie de ta boîte,
Ouais.
qui dure un an à peu près. Mais à un moment donné, visiblement, ça suffit plus. Et
Ouais.
donc là, tu vas chercher du taf, tu vas chercher un CDI, tu te
Angular
manges de
2.
l'Angular.
C'était. Bon, ça m'a mis dans le TypeScript, c'était quand même la bonne
Et ça,
chose.
tu fais ça combien de temps?
J'ai fait ça pendant 9 mois avant de démissionner. Parce que je me suis dit que ce n'était pas possible. J'étais invité à faire des conférences. Je devais poser des 100 soldes pour partir faire les conférences. Rencontrer Guillermo Rauch et la team de Vercel aujourd'hui à San Francisco. Des grosses opportunités à côté. Et quand je rentrais dans l'agence, ils ne voulaient pas voir l'opportunité de Nuxt. Et l'avantage pour eux, c'était qu'ils ne pouvaient vendre que Angular 2 à leurs clients. J'ai fait, c'est pas
Non
possible.
mais ce contraste, comment t'as fait pour tenir 9 mois? Enfin, je me dis.
Ben, je répondais aux issues tous les jours et je travaillais environ 2 heures par jour, en espérant qu'ils n'écoutent pas ce podcast. Mais...
D'accord, ok. T'étais pas vraiment focus. Tu t'étais pas focus sur ton taf, quoi.
je faisais le taf, je faisais un très bon
Tu faisais le
taf.
taf, ok.
C'est-à-dire que dans une agence, il fallait chiffrer. Et c'est là où j'ai appris la magie du chiffrage, où on dit, ben, ça, je le fais en 2 jours alors que ça me prend une demi-journée, ce qui me donnait du temps pour faire de l'open source. Donc
Ok.
j'étais en fait à un tiers taf. 2 tiers open source, et je répondais aux issues la journée un peu caché au cas où à faire de
Ouais, donc
l'open source.
tes employeurs n'étaient pas forcément 100% au courant, tout, conscients de tout ça.
Non.
Mais tu faisais le taf, donc à partir de là, c'était
Voilà.
bon, quoi.
Ils m'ont demandé de faire l'open source pour leur boîte, mais ils n'avaient pas la vision open source, donc ça a pas continué.
Et donc tu tiens là-dessus pendant 9 mois, mais déjà à ce moment-là, t'es pas déjà assez coté pour arriver à trouver un job dans plus directement co connecté aux technos que tu utilises?
Ben, peut-être, mais j'ai pas eu d'offre tant que ça.
T'as pas su l'exploit. Enfin, ouais, ok, ça s'est pas produit, quoi. Et donc, il se passe quoi quand tu démissionnes? Parce que comment tu gagnes ta vie à ce moment-là?
Ben, à ce moment-là, on a créé une boîte avec mon frère,
Ok.
Alex, qui s'appelait Orion, qu'on a renommé en Nux Labs aujourd'hui. Et on s'est dit, ben, maintenant que Nux est bien adopté, des grandes entreprises l'utilisent, on peut faire des workshops dans les conférences et du consulting. Donc c'est là où j'ai commencé à faire du consulting pour l'équipe Accor Hotel et Louis Vuitton, Back Market. J'ai commencé à faire du consulting pour ces boîtes, rentrer de l'argent et se payer
Ok, donc il y a au bout de genre un an en
un an et
fait,
demi. Ouais, ça
un
faisait
an et
un an et demi.
demi, tu commences à pouvoir tirer un revenu qui te permette de te consacrer vraiment complètement à ça, quoi.
C'est ça. Et c'est pas, je dirais pas que je me consacre complètement à ça, puisque quand on fait du consulting ou des workshops, ben c'est du temps qu'on ne consacre pas pour le framework, et c'est du temps qu'on consacre pour des personnes, pour du support en fait. Donc
Ouais.
c'était dur de trouver la balance entre est-ce que je fais que du support pendant une semaine ou est-ce que je
Ouais.
développe le framework. Et on ne pouvait pas scale, on était bloqué en fait sur. On fait du support pour se payer, et le reste du temps on peut faire un peu d'open source. On était. C'était pas facile pendant 2 ans.
Et qu'est-ce qui fait que ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé? Parce que je crois qu'aujourd'hui vous en êtes plus là, donc
Non.
vous avez grandi. Donc qu'est-ce qui a permis à un moment donné de le petit truc qui ou le
À
gros
un
truc?
moment donné, on s'est vu, on a vu que les compétiteurs dans le monde de React se sont mis à lever des fonds. Il y a Gatsby qui a commencé, qui a levé maintenant plus de 20 millions d'euros. Pour leur framework et pour travailler sur la solution Gatsby Cloud. Et on a eu Vercel pour le hosting qui a levé des fonds et qui a pu développer Next.js. Nous, on avait déjà une core team, on est 10 personnes à travailler sur le framework, mais 10 personnes sur leur temps libre, versus eux qui ont levé des fonds et qui peuvent les payer à temps plein. Donc on s'est dit, ben, on va aussi décider de lever des fonds pour pouvoir avoir des gens.
Monter un business model qui te permette de lever des fonds, quoi.
C'est ça. Donc, on s'est dit, OK, on va faire un business model autour de Nuxt. On ne veut surtout pas dénaturer Nuxt. On ne veut pas le bloquer parce qu'on fait un produit avec. On a vraiment cet amour et cette philosophie de Linux et de faire en sorte que Nuxt soit et cette portability, versatility, je ne sais pas comment on peut dire en français.
En tout cas, qu'ils soient extrêmement accessibles.
Voilà, accessible et qui puisse s'installer partout, se déployer absolument partout. Et on s'est dit, OK, on va lever des fonds. Donc, fin 2019, début 2020, on a levé 2 millions de dollars. Et là, ça fait un an et demi. On a des bureaux à Bordeaux, on est 20 à travailler chez Nux Labs, dont 5 qui travaillent sur le framework à temps plein. On a une team qui s'occupe du nouveau site internet qui va être sorti. Donc je pense que quand le podcast va sortir, il sera déjà sorti. On va nu avoir Nux 3 qui est dans les tuyaux, qui va sortir courant juillet en private beta. Et deux autres produits, dont Volta et Docus. Donc on n'a pas chômé pendant un an et demi. On avait plein d'idées avec mon frère en tête. Nux, c'est une chose, mais on peut offrir beaucoup de choses basées sur Nuxt. Donc on a pris cet élan de temps et d'argent pour pouvoir concrétiser nos idées qu'on avait depuis 4 ans. Mais faute de temps, via le support et le consulting et la maintenance du framework, on n'a jamais pu vraiment les développer. Donc ça a fait du bien de pouvoir lancer ces projets.
C'est génial. C'est génial. Et ce que je trouve vraiment incroyable, c'est comment, à un moment donné, quelque chose qui était un challenge technique est en train de se transformer en une aventure entrepreneuriale qui reste quand même centrée sur de la tech. Ça, je
Ouais.
trouve ça. Enfin, ouais, moi, ça me fait vibrer, quoi.
Alors, je suis grand, grand fan de tech. Si on n'innove pas en permanence, je vais vite m'ennuyer. Et là, ce qu'on a sorti avec Nux 3, en fait, on innove en premier, ensuite on fait le marketing. On ne fait pas d'abord le marketing avant d'innover. On est vraiment sur... Là, on a réussi avec Nux 3, par exemple, et c'est là où on va se démarquer encore plus des autres frameworks, à faire du edge-side rendering. Donc là, c'est très poussé comme concept, mais on a fait tourner du rendu côté serveur, du pré-rendering de la page, dans les Cloudflare Workers. Donc c'est carrément sur le CDN, on peut avoir du rendu dynamique. Donc on a des temps de réponse en moins de 200 millisecondes, peu importe où on est sur Terre, avec un coût, mais c'est quasiment gratuit. Pour une page, il n'y a aucune attaque DDoS qui est possible, puisqu'on est vraiment sur un CDN, pas de coût serveur. La sécurité, puisque tout est statique. On arrive enfin à une expérience agréable du développeur, développement jusqu'à la production.
Waouh. Bah écoute, moi je suis assez admiratif de ce que vous avez accompli et je te dis ce mix entre tech et ce mix entre tech et entrepreneuriat, ça me laisse rêveur et je trouve ça aussi génial. Merci d'avoir partagé cette expérience de montrer aussi, tu vois, l'engagement qu'il faut pour arriver à sortir ce genre de projet. C'est vraiment pas par hasard que vous en êtes arrivé là et j'ai été ravi de voir un petit peu le cheminement que tu as partagé. Tu disais que tu avais plein d'idées et que tu as pu avoir les moyens de commencer à les concrétiser. Je suis à peu près certain que depuis, le nombre d'idées n'a fait qu'augmenter.
Malheureusement, oui.
Non,
Ça ne
c'est
s'arrête
normal. Ça,
pas.
c'est le processus créatif. C'est normal. Du coup, je te propose pour le mot de la fin, c'est quoi l'avenir de Nux? C'est quoi la direction les prochains challenges, la direction que ça va prendre?
Je partirai dans le sens où Nux sera le nouveau PHP. Je peux pas en dire plus.
Oh, quel teasing de malade!
Je pense que d'ici fin d'année, on va sortir. L'inconvénient qu'on a eu, c'est qu'on a beaucoup travaillé en privé. Et là, c'est le moment où on va tout sortir en open source. Et ça fait du
Ok.
bien de tout sortir en open source parce que c'est le
Tu
moment
vas
où
pouvoir en parler.
on livre et on parle à tout le monde de ce qu'on a réussi à accomplir.
Bah écoute, peut-être que du coup ce teasing sera complètement outdated le temps que l'épisode sorte. Alors tu sais ce
J'espère.
qu'on va faire? On va essayer de le sortir dans le bon timing. C'est quand les annonces qui vont arriver?
Ben, octobre, c'est quand on est
Bon,
en
je
public.
prends le challenge, il faut qu'on poste cet épisode en septembre. Ça marche.
Excellent.
Merci Sébastien d'être
Merci
venu
beaucoup,
aujourd'hui.
Benoît.
Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent aller où?
Sur nuxtjs.org.
Ok, c'est cool. On mettra le lien dans la description. Merci Sébastien.
Merci, Benoît.
Quant à toi, cher auditeur, bah, j'espère que tu as kiffé cet épisode. Moi, j'ai vraiment kiffé. Merci encore à Seb. Si tu veux être bien à jour de tous les épisodes qui sortent, que ce soit sur YouTube ou sur le podcast, je t'invite à venir nous rejoindre sur Compagnon, compagnon.artisandéveloppeur.fr dans la rubrique Veille. Tu y trouveras aussi la nouvelle rubrique Bibliothèque qui te permettra de partager tes notes de lecture avec les autres membres de la communauté. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te remercie et je te dis à bientôt!